RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Sabine Sessou d'Afrique Magazine, Hichène Benaïch de New African et puis Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI. Trois sujets au menu de cette édition. La RDC, où le dialogue politique national a accouché d'un accord renvoyant les élections à 2018 et prévoyant de maintenir au pouvoir Joseph Kabila au-delà de la date limite de son second mandat constitutionnel. La Centrafrique avec un nouveau pic de violence meurtrière, avec des dizaines de morts parmi les déplacés. Et puis le Burundi, où le président Nkurunziza rompt avec la Cour pénale internationale, une première depuis la création de l'institution de cette juridiction internationale. Il semble que l'Afrique du Sud veuille lui emboîter le pas. D'abord la RDC, où le dialogue politique national donc repousse ses élections et prolonge le bail du mandat de Joseph Kabila. Un accord rejeté par les principale force de l'opposition. Le sujet est résumé par Amandine Cellier de TV5 Monde qui revient sur cette journée ville morte à l'appel justement de cette partie de l'opposition qui a refusé de participer au dialogue politique national.
Disparus les embouteillages monstres de l'avenue du 6 juin, évaporés les commerçants et les chalands de l'avenue du commerce. D'ordinaire bondé, l'un des plus grands centres commerciaux de Kinshasa était ce matin un bon indicateur du suivi de l'opération Ville Morte lancée par l'opposition.
Si les gens ont accepté de rester à la maison, c'est qu'ils sont mécontents.
Restés chez eux aussi, les écoliers. Les parents quinois gardent en tête les violences qui ont fait une quarantaine de morts après le rassemblement du 19 septembre dernier. Au lendemain de la signature d'un accord entre la majorité présidentielle et une frange minoritaire de l'opposition pour reporter l'élection présidentielle à avril 2018, les différents partis du grand rassemblement d'opposition autour d'Étienne Tshisekedi n'entendent pas baisser les bras.
Le 19 novembre, il y aura une mobilisation générale, la plus grande marche que nous allons faire avant la marche qui sera au mois de décembre. Et cette marche-là, nous allons aboutir sur les sittings dans toutes les institutions et on ne donnera pas la possibilité à ce que cet accord soit même le début de l'exécution.
Ignoré à Lumumbashi et Bukavu, fiefs des partis qui ont signé l'accord, l'opération Ville Morte aurait été suivie dans de nombreuses autres villes comme Goma ou ici Beni dans le Nord Kivu. Lors de cette manifestation pacifique, les militants d'opposition ont sorti leur carton jaune pour signifier au président son sursis.
Voilà, l'opposition qui s'est opposée à ce dialogue national donc appelle à une nouvelle manifestation, en tout cas pour donner un carton rouge à Joseph Kabila le 19 décembre prochain. Ce sera au terme de son second mandat constitutionnel, Jean-Baptiste Placa. Les élections auront lieu donc au plus tôt en 2018. Le piège politique, terme par lequel cette opposition opposée au dialogue national appelait ce forum, ce piège se referme, semble-t-il, sur le peuple congolais.
Absolument, on se demandait pourquoi ce dialogue, on a la réponse. C'est de toute façon la réponse qu'attendaient un certain nombre d'observateurs et les opposants. Il s'agissait en l'occurrence de prolonger, comme vous dites, le bail de Joseph Kabila. Et ce n'était que ça l'objet de ce dialogue. Et on a presque envie de dire tout ça pour ça, parce qu'ils ont souffert à tenir ce dialogue. Aujourd'hui, on a le sentiment que le pouvoir est face à ses propres contradictions, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé de concret en RDC. Le plus grave, c'est que quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus d'une quinzaine d'années et qui juge nécessaire de proroger de 18 mois sa présence aux affaires, c'est forcément quelqu'un qui, au bout des 18 mois, trouvera d'autres raisons pour rester plus longtemps.
Alors justement, Sabine Sessou, cet accord, une fois avalisé, cet accord du dialogue politique national arbitré par le Togolais Edem Kodjo, une fois avalisé par le Parlement, cet accord sera au-dessus de la Constitution, qui devait être intangible.
Oui. Bon, je pense que sur le plan légal, c'est pas très clair. D'ailleurs, les principaux opposants le disent, et Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi disent que vaut cet accord, qui n'est d'ailleurs pas signé ni par la CENI ni par le président. Il n'y a pas la signature du président Kabila. Ça règle rien à la crise de confiance qu'il y a au Congo. C'est-à-dire que comment on peut faire confiance à un président qui ne respecte pas la Constitution pour respecter un accord politique qui est inférieur sur le plan légal à la Constitution ? Et je crois que le rapport de force reste dans la rue, largement en défaveur du pouvoir, quoi qu'il en pense et quoi qu'il en dise. Kabila est en train de, je pense, louper un tournant historique et l'histoire va le rattraper.
Est-ce qu'on peut parler de coup de force, Hicham ?
Pour moi, d'abord, il faut revenir au contexte de négociation de son contrat avec ce facilitateur et il faut pénétrer...
Au nom de l'Union africaine.
Absolument. Je pense que, pour moi, c'est un accord à minima permettant à Kabila de sauver la face avec les incertitudes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que quid de la sortie après et comment va-t-il agir pendant ces 18 mois. Moi je pense que il y a une situation, Sabine l'a bien souligné, c'est-à-dire qu'il va y avoir une guérilla avec la population pour pouvoir protester, continuer à réclamer, en tout cas proclamer ce côté usé et fatigué de ce pouvoir. Et je pense que ça va être très tendu pour les mois à venir, hein. Ça c'est certain.
En tout cas, soulignons tout de même les mises en garde qui fusent de toutes parts, hein, depuis cet accord annoncé en RDC sur le glissement, sur la transition. Mise en garde la France qui considère que c'est un accord qui ne tient pas la route, hein, par la voie de son...
C'est le minimum qu'on puisse faire.
Voilà. L'Union européenne qui menace également de prendre des sanctions ciblées contre les dirigeants congolais si ces élections n'étaient pas convoquées plus tôt, donc qu'en avril 2018. Voilà, sujet inépuisable que ce Congo-Kinshasa. On passe à notre deuxième sujet, à la Centrafrique, où la vie quotidienne est hélas toujours rythmée par des violences. La semaine dernière, deux attaques particulièrement meurtrières ont visé des camps de déplacés dans deux villes distinctes du pays. Retour sur les faits avec Ilham Taoufiki de TV5 Monde.
La scène n'est que trop familière en Centrafrique. Des milliers de déplacés installés dans l'urgence sur un site inapproprié. Certains ont récupéré des bâches dans leur fuite et tentent de se construire un abri de fortune. D'autres sont exposés là, aux morsures du soleil et du froid de la nuit. Qu'importe les conditions, ils sont venus chercher la protection de la MINUSCA, la mission de l'ONU dans le pays, basée à quelques mètres de là.
On a brûlé toutes les maisons. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts, vraiment.
Mercredi dernier, les rebelles de l'ex-Séléka vengent la mort d'un des leurs, tué par une flèche alors qu'il tentait de voler un groupe électrogène. Et une fois de plus, les civils sont la cible des représailles. La plupart étaient déjà déplacés sur le site de l'évêché. Bilan, 30 morts, dont 12 assaillants tués par les casques bleus. Rien ni personne n'a été épargné par les attaques et les pillages. Même les bureaux d'ONG ont été pris pour cible. Les organisations humanitaires ont d'ailleurs suspendu leur activité, laissant les déplacés totalement démunis. À Kagabandoro et dans les environs, au moins 200 000 personnes sont privées d'assistance et l'insécurité alimentaire affecte 120 000 personnes, selon les Nations Unies.
Voilà, cette impossible quête de paix, Jean-Baptiste Placa, qui touche de plein fouet les populations civiles. D'ailleurs, la MINUSCA a recensé, rien que cette semaine, plus d'une trentaine d'atteintes aux droits de l'homme qui se sont soldées par des morts. D'après un des communiqués de cette MINUSCA, les 12 000 casques bleus de cette mission de l'ONU en Centrafrique peinent visiblement à stabiliser le pays. Le président Touadéra, président démocratiquement élu, paraît également impuissant et les derniers éléments de la force Sangaris, la force française, vont partir de Centrafrique. On voit mal dans ces conditions comment cette Centrafrique pourrait être stabilisée et pacifiée.
Nous parlions de la RDC. Il faut voir la puissance d'investissement des Nations Unies en hommes et en moyens dans ce pays depuis justement une quinzaine d'années.
20 ans.
En RDC, oui.
Et le peu, finalement, qu'on a mis sur la Centrafrique, alors que c'est un des pays du continent qui est voisin au maximum d'autres pays.
8 pays environnent la Centrafrique.
La Centrafrique brûle, c'est le Soudan du Sud, le Tchad, le Cameroun, le Congo. Et tout cela, on a sous-estimé la nécessité de régler le problème de la Séléka et des Antibalaka. La MINUSCA proteste, mais tout le monde sait qui fait et qui commet ces actes. Et ces gens sont protégés ou par leur communauté ou par les mouvements justement rebelles. Et personne, ni le pouvoir réguliers désormais, ni la MINUSCA n'osent aller les chercher pour leur faire payer le prix des forfaits qu'ils commettent. C'est terrible parce que on a le sentiment que ce pays est parti pour longtemps dans ce genre de situation, comme le Liban en d'autres temps.
Alors plus grave, Hicham, certains partis politiques accusent même des contingents de la MINUSCA quasiment de complicité avec certains groupes armés. C'est le cas du MLPC qui, dans un communiqué, accusait notamment des casques bleus d'avoir fermé les yeux, notamment dans la région de l'Ouam Pendé, sur des exactions de groupes armés.
C'est compliqué pour les Nations Unies d'intervenir. Nous avons mené une enquête sur la présence de l'ONU en Afrique et on a vu toute la difficulté de la présence onusienne sur le continent.
Mmh. Alors, cela dit, est-ce que cette communauté internationale n'éprouve pas une certaine forme de lassitude? Parce que l'instabilité de la Centrafrique, c'est quasiment depuis l'indépendance de ce pays, avec des successions de coups d'État, un empereur sorti de nulle part, et puis cette présence française, omniprésente, finalement, militairement, notamment, depuis l'indépendance de ce pays. Est-ce que tout ça ne joue pas aujourd'hui contre la Centrafrique, Sabine?
La Centrafrique est un peu une aberration postcoloniale. Est-ce que cet État existe véritablement? On peut se poser la question. Est-ce qu'il a jamais existé?
Il peut exister. Il appartient aux Centrafricains
de
décider d'exister.
D'accord, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours une logique d'instrumentalisation de la Centrafrique par des puissances extérieures, pas forcément très éloignées. Il y a la France, d'accord.
Mais il y a aussi les pays voisins.
Le Tchad. Idriss Déby est quand même en mal de légitimité chez lui. Il est passé encore...
Pendant longtemps, il a...
Et il joue comme Oufouette a pu le faire en Côte d'Ivoire pour faire ressortir la stabilité de son pays. On met le feu à côté. Est-ce que c'est ça? Je me pose la question, en fait.
Ouais, Sabine pose une vraie question, parce qu'au fond, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle « La revanche de la géographie ». La géographie détermine les comportements. Moi, ce pays est une aberration. Il est enclavé, il y a dans le monde 47 pays, 16 existent en Afrique. Ce pays est enclavé, il a des difficultés énormes pour décoller, mettre en valeur ses richesses. Mais, encore une fois, c'est une question de gouvernance. C'est un accompagnement nécessaire qu'il faut.
L'enclavement.
Jean-Baptiste, son dernier mot.
L'enclavement n'a rien d'une fatalité. C'est-à-dire qu'il faut considérer que si la Centrafrique avait fait partie du Cameroun, il aurait juste fallu considérer que c'est le grand nord du Cameroun. Donc il faut avancer beaucoup plus longtemps sur les routes, comme le nord de la Côte d'Ivoire et d'autres régions enclavées. La réalité, c'est la bonne gestion du pays et effectivement l'instrumentalisation, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'il y a pendant longtemps la Centrafrique, des bases françaises, abritait des bases françaises et avait donc en retour des financements qui lui permettaient de faire face à ses obligations de fin de mois. Et un jour, on a décidé que les bases fermaient et puis donc on ne donnait plus d'argent et subitement il a fallu chercher à vivre par eux-mêmes. Mais un ancien premier ministre de Centrafrique, Martin Zigele, nous disait un jour que quand on gère bien, la Centrafrique a les moyens de faire face à ces contraintes.
RFI, TV5 Monde, on aborde donc le troisième sujet d'Afrique Presse cette semaine, le Burundi qui se retire de la CPI. Et ce vendredi matin, on a appris que l'Afrique du Sud voulait lui emboîter le pas. Cette décision a été votée par le Parlement de Bujumbura. Donc après avoir refusé une force d'interposition des observateurs, après avoir mis à la porte des représentants du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, bref, Pierre Nkurunziza a fait en quelque sorte un bras d'honneur à la communauté internationale en étant le premier chef d'État à décider d'un retrait de cette Cour pénale internationale.
Ça aurait été crédible si ça avait été pris comme décision dans un contexte, j'allais dire, de normalité pour le pays. Mais quand vous êtes coincé sur le plan de vos violations des droits de l'homme et que vous sentez bien vous êtes en train d'être cerné et vous dites... On se retire, c'est comme si chaque citoyen pouvait dire bon, je sors de la République pour...
Bien sûr. Non, mais... c'est d'autant plus vrai, hein, Hichem, que cette décision du Burundi de tacler l'ONU intervient après un rapport au vitriol sur les violations des droits de l'homme publié justement le 30 septembre dernier.
Absolument, c'est un régime aux abois, mais on voit le comportement de ce syndrome de la mentalité assiégée ou le régime assiégé, et il est dans une extrémisation de son comportement, une forme d'autisme. Et à ce titre, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « Ces malades qui nous gouvernent ». Je pense qu'il faut s'interroger sur un peu son imaginaire, sa manière de fonctionner, et son comportement est absolument pathologique.
Sabine.
Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, Pierre Nkurunziza s'empare d'un débat profond et important, de fond, panafricain, sur la légitimité de la CPI, parce que c'est un vrai débat en Afrique, et pourquoi cette Cour de justice ne traduit sur ces bancs que des Africains, alors qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité partout dans le monde. Donc il y a un vrai débat de fond qu'il faudra peut-être un jour affronter.
Mais en il cherche attendant... quand même à se mettre à l'abri de ses propres
mais
turpités, attendant... de Sabine.
Et oui,
parce que
mais
je rappelle juste un mot, la CPI a ouvert une enquête quand même sur le Burundi.
D'accord, mais il n'est pas aux abois. Nkurunziza n'est
pas...
Est-ce qu'on peut réfléchir deux minutes à pourquoi Pierre Nkurunziza, plus d'un an après la crise chez lui, malgré des sanctions internationales, continue de payer ses fonctionnaires? Avec quoi? Avec quoi Pierre Nkurunziza paye ses fonctionnaires? Quels sont les intérêts internationaux au Burundi qui s'assurent que le Burundi reste sur une route d'exportation du coltan du Nord Kivu vers Dar es Salaam?
D'accord,
pourquoi
mais faut-il passer par pertes et profits les victimes de ces violations des droits de l'homme au Burundi depuis que Pierre Nkurunziza s'est entêté à vouloir un troisième mandat qui était, semble-t-il, illégitime?
Mais comme Fatou Bensouda le dit, et avec beaucoup de légitimité aussi, c'est pour ça que c'est un débat passionnant et très intéressant. Fatou Bensouda dit, tant que les dirigeants africains traiteront leur peuple comme ça, il y aura des Africains à la CPI. Elle a raison de le dire, sauf
bien
que...
Sûr.
Bon, voilà.
Jean-Baptiste.
Voilà. Et il s'agit juste de rendre justice à des victimes.
Voilà.
Et les victimes, en l'occurrence, sont burundaises. Le problème, c'est que si les gens avaient droit à une justice normale dans leur pays, la CPI n'aurait pas de droit d'exister, entre guillemets. Mais elle existe parce que en Centrafrique, au Burundi et dans bien d'autres pays, les gens sont victimes de brutalité, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et qui ne peuvent pas compter sur la justice nationale. Ce n'est pas correct, et effectivement, cette cour court le risque d'être décrédibilisée et de voir d'autres pays se retirer.
Il y a un véritable débat qui doit être engagé sur ça, sur la problématique de la CPI.
Mais l'Union africaine, d'ailleurs, a voulu traiter de ce débat lors du dernier sommet de Kigali, mais ça a été enlevé de l'ordre du jour.
Peut-être que dans les capitales occidentales, on pourrait aussi demander pourquoi les États-Unis ne font pas partie de la CPI et ont un avis quand le Burundi sort
c'est
de
ça.
La CPI.
Absolument. Et demande à la CPI d'agir alors que eux-mêmes ne reconnaissent pas
cette juridiction. Il est vrai que même si Pierre Nkurunziza rompt avec la CPI, le Conseil de sécurité de l'ONU peut demander à la CPI de poursuivre Nkurunziza.
Absolument.
Voilà. Et le retrait de l'Afrique du Sud annoncé, Sabine?
Oui, bon, ça fait sourire parce que franchement, Jacob Zuma, s'il pense qu'il va s'en sortir, il y a quand même une justice chez lui qui va le traquer
bien
après.
Sûr.
Voilà. Parce qu'il y a une justice en Afrique du Sud.
Mais je pense que le débat de la CPI est vraiment passionnant parce qu'il pose en fait la question centrale de l'absence de régulateur du régulateur mondial. Il n'y a pas de régulateur des Nations Unies et il n'y a pas de puissance régulatrice de cette Cour de justice qui fonctionne un peu en roue libre.
Voilà. C'est la fin donc de cette émission, et avant de nous quitter, cette mise au point à la demande d'Alberto Olympio. Il y a 2 semaines, nous avons évoqué ici même ces démêlés judiciaires de ce dirigeant politique togolais condamné à 5 ans ferme par un tribunal de Lomé dans une affaire de différend commercial. Il tient à nous préciser qu'il n'a jamais reconnu les faits, contrairement à ce qui a été dit sur ce plateau. Donc, dont acte. Merci Sabine Sessou, Hichem Benaïch et Jean-Baptiste Le Placa, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez bien sûr retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité à Afrique Presse.